I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc merci d'être là pour ce hors-série exceptionnel parce qu'il est tout simplement enregistré au Point Éphémère à Paris pendant le festival Jerkoff. On va reprendre les bases. C'est quoi une personne transgenre ? Une personne transgenre, c'est une personne qui a une identité de genre qui est différente de celle qui a été assignée à la naissance. C'est-à-dire qu'un homme trans, c'est un homme qui a été assigné de sexe féminin à la naissance. Une femme trans, c'est une femme qui a été assignée de sexe masculin à la naissance. Ok ? Jusque-là, tout est bon. La transidentité, sortez-vous de l'esprit que c'est un choix, que c'est une forme de dérèglement hormonal, psychique. C'est pas une mode. Et la transidentité, ce n'est pas non plus l'apanage d'une ethnie, d'une religion, d'un pays, d'une nation, d'une race, ou je ne sais quoi. Et vous le savez peut-être, Jeans Podcast, c'est un podcast qui parle en particulier des personnes arabes ou musulmanes. En terre d'islam, peu importe l'époque, il a toujours existé des formes plurielles de transidentité ou de non-binarité. Je pense notamment au Bourneshe en Albanie, je pense au Bachaporesh et au Bachaposh en Afghanistan, je pense au Hawal en Égypte, au Khanit, au Sultanat d'Oman, je pense aussi au Goldigen en Mauritanie, au Sénégal. Ces personnes-là existent, ont toujours existé, elles sont là. Les personnes transgenres des communautés musulmanes aussi d'Asie ont existé et sont toujours là. Je pense encore au Wari en Indonésie, je pense au Maknye en Malaisie, chez les Bugis par exemple en Indonésie aussi. Il y a une culture qui s'appelle les Bugis qui reconnaissent le sexe et non pas le genre, le sexe masculin, féminin et intersexe, et qui reconnaissent 5 genres différents. Sachez que l'Indonésie est aujourd'hui le seul pays qui administrativement reconnaît 5 genres différents, lors même que c'est le pays le plus musulman au monde. Je préfère souligner aussi que le Pakistan et le Bangladesh, souvent décrits comme des pays arriérés ou sous-développés, etc., sont aussi des pays extrêmement à majorité musulmane et qui pourtant reconnaissent aussi ce qu'ils appellent le troisième genre. À l'époque même de la révélation coranique, donc il y a 14 siècles déjà, on savait que donc le prophète de l'islam, Mahomet, comme on dit en France, avait accueilli chez lui des personnes qu'on pourrait appeler transidentitaires, non-binaires. Ce qu'on appelle les muhannatsun en arabe, ce sont des personnes qui ressemblaient à des femmes quand elles étaient des hommes, a priori. C'est ce qui se rapprochait le plus de la question de la transidentité. En tout cas, il y avait des muhannatsun, il y avait aussi des musajilats, c'est-à-dire, disons, la définition opposée, littéralement, ça voulait dire des femmes qui ressemblaient à des hommes, mais c'est ce qui se rapproche le plus de ce que pouvaient être les hommes trans aujourd'hui. Ce sont des personnes qui avaient des fonctions sociales bien établies. On pense au Hijra, au Pakistan, en Inde, qui étaient souvent musiciennes, danseurs, danseuses, qui était Hit, la meilleure amie du coup d'Oum Salama, la sixième femme du prophète, qui était une personne transidentitaire aussi. Et elle était autorisée à être dans les demeures du prophète, à entrer chez les hommes comme chez les femmes, à prier avec les hommes, avec les femmes, à ne pas demander aux femmes de se voiler devant Yel, du coup. Donc c'était il y a 14 siècles, par la personne la plus légitime pour parler d'islam, a priori. Je voudrais juste que vous reteniez, si vous êtes concerné par la question musulmane, que vous n'êtes pas invité du coup à dérouler votre opinion sur le pour ou le contre de la transidentité en islam. Dans les rues de Bagdad, au IXe siècle, déjà, il y avait ce qu'on appelait aussi les roulamiyettes, des personnes qui, encore une fois, étaient dites comme s'habillant comme des hommes, donc des femmes qui s'habillaient comme des hommes. Il y avait en particulier une personne qui s'appelait Harib, qui aurait attiré les faveurs du prince El-Amin, le fils de l'empereur abbasside Haroun al-Rachid, et qui, ce fils-là, n'aimait coucher qu'avec les hommes à l'époque, et oui, choquant, pour accepter de coucher avec du coup ce qu'il aurait entendu comme étant une femme. En fait, Harib a complètement expliqué son identité en tant qu'homme, alors qu'il était assigné femme du coup à la naissance, au IXe siècle à Bagdad en Irak. Donc on est déjà sur des preuves très très formelles, culturelles, historiques, d'une transmasculinité racisée. Donc la transphobie n'aura pas raison des personnes trans. C'est juste que, au lieu de choisir l'amour, finalement, les personnes transphobes transitionnent, elles aussi, vers la haine. Alors, pour comprendre les transidentités, qui plus est les transidentités qui sont racisées, il est nécessaire quand même de faire un travail introspectif, et je fais un appel là pour toutes les personnes auditoristes qui nous écoutent, et pour les personnes dans la salle qui sont concernées par la question de la race ou de l'islam en général. Je voudrais qu'on puisse méditer là-dessus et entrer en solidarité avec nos frères, nos sœurs, nos adelfes trans et ou non-binaires. Et on est à même de tendre la main, on est à même de comprendre en fait l'autre dans son identité et ne pas le fétichiser, comme les femmes trans racisées le sont. Et ne pas se faire contrôler par la police à tous les coins de rue parce qu'on est un homme trans racisé. C'est ça, en fait, la transphobie. Et ce soir, voilà, je voulais juste mettre un point d'honneur à comprendre qu'il fallait plus voir les personnes trans comme juste des corps, mais aussi comme des personnes, qu'on pouvait plus juste se battre constamment contre le racisme et le sexisme parce que c'était un peu dans l'air du temps, mais qu'on peut pas se battre contre l'islamophobie ambiante, qu'on peut pas se battre contre l'antisémitisme si on se bat pas non plus contre la transphobie. Nos luttes seront intersectionnelles, nous ne serons pas. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir avec moi Loulou, Louis, Loulou parfois sur Instagram, Louis Ferlou, qui est de maman algérienne, de père gabonais, tu as 24 ans, tu es étudiant en médecine. Sur ton compte Insta, tu partages beaucoup de sujets différents sur les questions de transidentité et aussi évidemment sur ton propre parcours de transition, donc qui est tellement une réserve précieuse d'informations pour toutes les personnes qui te suivent. Et puis Morgane Noam, du coup, qui est thérapeute, formateur sur les questions de diversité et d'inclusion. Tu es aussi relecteur sensible pour les différentes maisons d'édition et tu vas sortir ton premier livre en octobre 2023, donc on a hâte de le lire. Donc merci d'avoir accepté mon invitation dans Jeans ce soir.
Merci à
vous.
Vous
pouvez
toi.
Les applaudir. Alors pour commencer, on va partir vraiment du B.A.B.A. Hein. Je sais qu'il y a une panique générale quand même quand elle se trouve devant une personne trans. Ils ne savent plus quoi dire, ils ne savent plus quoi faire, comment il faut parler, comment il faut dire, etc. A priori, il y a rien à dire de plus ou de moins. Mais en revanche, il y a des mots, des choses, des questions qu'il faut arrêter de poser. Donc, évidemment, je parle de dead name, je parle de mes gens rage. Donc, la question principale que je voulais vous poser, c'est quels sont ces mots et ces questions qu'il ne faut pour vous jamais poser à des personnes trans et en particulier à des hommes trans racisés?
Bah, tu les as un petit peu nommés, hein, le fait de... En fait, c'est des questions qui vont, je pense, reposer sur la curiosité essentiellement. Moi, j'ai tendance à penser qu'il n'existe pas de mauvaises questions qu'on ne se verrait pas poser à quelqu'un qui est très proche de nous, parce que souvent, les gens partent du principe que, comme on est trans, il y a une genre de porte qui s'ouvre vers toutes les questions possibles et inimaginables et qu'on est là pour y répondre parce que c'est notre taf. C'est pas le cas du tout. Du coup, je pars du principe qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Je sais pas, du style « Ah, mais quand est-ce que tu as commencé ta transition ?»« Pourquoi pas ?» Du coup, t'es heureux ou t'es heureuse ?» Pourquoi pas ? Maintenant, c'est vrai que le comment tu t'appelais avant, je vois pas vraiment l'intérêt, parce que là, c'est vraiment purement de la curiosité. Même si la personne vous répond, qu'est-ce que ça vous apporte ? Est-ce que vous comprenez mieux la transidentité, là, maintenant qu'elle vous a dit son ancien prénom, qui a été donné par son père et sa mère ? Je ne pense pas. Est-ce que là, demain, si quelqu'un vous pose une question sur la transidentité vachement pointue, est-ce que c'est la personne qui vous a donné hier son dead name qui va vous aider à répondre ? Je ne pense pas non plus. Maintenant, il y a aussi la façon de formuler les questions. Demander, et du coup, pour une opération, moi, si demain, je rencontre quelqu'un qui va enlever sa poitrine, ça se passe comment ? Pourquoi pas ? Maintenant, si tu me demandes qu'est-ce que j'ai entre les jambes, bof. Si tu me demandes comment ça se passe quand on veut faire une opération de réassignation sexuelle, est-ce qu'il y a des spécialistes qui font ça en France ? Comment ça se passe ? Pourquoi pas ? Si tu me demandes la taille de ma bite, bof. Donc c'est aussi la formulation qui fait la question, je pense, parce qu'on a le droit de s'intéresser à la transidentité, on a le droit de s'intéresser aux opérations, savoir comment ça se passe, qu'on soit concerné ou pas, je pense que c'est important. Maintenant, il y a aussi la manière de le demander, que ce ne soit pas directement dirigé vers la personne, que ce ne soit pas curieux de savoir vraiment ce qui se passe en dessous de ses vêtements ou dans son intimité, parce que ça ne se fait pas tout simplement. Je veux dire, quand on pose des questions sur les relations sexuelles d'une personne trans, on ne demanderait pas ça à quelqu'un de cis dans la rue. Enfin voilà, comment ça se passe avec ta partenaire, qui est en dessous, qui est au-dessus. Enfin, ça ne se demande pas. Enfin voilà, pareil pour une personne trans. Donc c'est pour ça que je dis, on ne poserait pas des questions là à une personne cis. Je ne vois pas pourquoi nous, on doit prendre le tarot pour les autres, quoi.
Je pense que juste ce qu'il est important aussi de prendre en compte, c'est le degré de proximité que vous avez avec la personne face à vous. Effectivement, comme le disait très bien Louis, on a tendance à penser que les personnes trans sont un peu des préposés à toutes les questions sur le genre, sur les transidentités, que ce soit de manière globale ou sur leur parcours personnel. Et donc du coup, effectivement, si cette personne trans est un ou une inconnue pour vous, évitez, parce que ça ne vous regarde pas. Après, voilà. Toujours se poser la question de quel est le but in fine de cette question. Qu'est-ce que je cherche à savoir ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Est-ce que finalement c'est important dans la relation que j'entretiens avec cette personne ? Et à partir du moment où vous vous rendez compte qu'il s'agit davantage de curiosité, qu'il s'agit davantage de... et aussi qu'il s'agit davantage d'une question à laquelle vous pourriez trouver une réponse sur Google, n'hésitez pas à sortir votre téléphone plus tôt. Voilà.
Très bien dit.
Et puis aussi, je rajoute, en dehors des choses à pas dire ou demander, il y a aussi, moi, ce que j'appelle la transphobie douce, c'est les mauvais compliments. Ah, c'est bien fait. C'est super gênant. Voilà, quand tu dis, ah, je suis trans, ah, c'est super bien fait, j'aurais pas dit. Mais tu ressembles vraiment à un vrai mec. Nul zéro. Voilà. J'aurais jamais cru que t'es... Mais du coup, t'étais une femme avant. L'idée n'est pas mauvaise. Je ne dis pas que je ne suis pas née assignée femme. Je le sais, je suis au courant. Mais la formulation, elle est mauvaise. Je ne vais pas le prendre mal parce que souvent, je me dis que c'est de la maladresse. Mais si ça pouvait être évité, ce serait cool. Et ça peut être évité s'il y a derrière une éducation personnelle qui est faite. Et ça, c'est un travail de chacun et chacune.
Pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, sur les faux compliments, il y a beaucoup de personnes cis qui veulent se comparer aux personnes trans, dans le sens, le nombre de fois, je pense que tu as dû très certainement l'entendre aussi, le nombre de fois où on m'a dit « Oh là là, mais moi je suis un vrai mec et pourtant je suis pas aussi stock que toi, quoi. Oh là là, moi je suis né mec et pourtant j'arrive pas à me faire pousser la barbe. » Bah écoute, tant pis pour toi, désolé, qu'est-ce que tu veux que je te dise ?
Donc souvent c'est tu fais comment ? Bah je me pique tous les mois.
C'est ça.
Alors justement, parlons un peu de ça parce que du coup, il y a cette notion aussi qu'il faut expliquer, je pense, en amont, qui est la notion de passing. Je pense que c'est important de pouvoir le dire. Dans le contexte du genre, en fait, le passing, ça veut dire quoi ? Ça se réfère à la capacité de passer pour. Donc en l'occurrence, ici, pour la transidentité, ça veut dire d'être une personne trans qui est considérée en un seul coup d'œil, passée comme une personne cis, du coup. C'est pareil aussi pour la blanchité, enfin pour tous les autres domaines. Mais en tout cas, c'est très, très important à comprendre pour la question du genre. Alors, vous avez tous les deux, du coup, un super passing, comme vous venez de le dire. Et j'imagine que ça améliore votre quotidien en termes de ce qu'on appelle l'euphorie de genre. Donc, encore une fois, l'euphorie de genre, c'est le fait de pouvoir être dans un sentiment de bien-être, de confort, dans le genre de lequel on se sent du coup appartenir. Malheureusement, la transphobie n'est jamais bien loin, puisque beaucoup de personnes cis qui en fait finissent par découvrir que vous êtes trans, alors là, du coup, même si vous avez un super passing, du coup, elles se sentent trahies. Donc si les hommes trans sont des hommes, est-ce que vous vous devez de décliner votre identité trans à tout le monde ?
Non, très clairement, on ne doit, alors que ce soit par rapport au genre, que ce soit par rapport à sa sexualité, on ne doit rien à personne. Effectivement, encore une fois, ça dépend du degré de proximité. Si c'est une personne avec qui vous comptez relationner sexuellement, avec qui vous vous engagez romantiquement, effectivement, peut-être que c'est important de pouvoir le mentionner. Si c'est votre gynéco, si c'est votre urologue, effectivement, peut-être que là, ça a un impact. Mais non, on ne doit pas décliner notre identité. Pour revenir sur cette question de passing, que le passing, c'est quand même quelque chose que toutes les personnes trans ne recherchent pas, qui n'est pas primordial d'avoir pour une personne trans. C'est pas parce que tu passes bien que tu es du coup une vraie personne trans, une bonne personne trans. Il faut rappeler quand même que le passing, c'est quand même quelque chose de très 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 cisnormé, très hétéronormé, très patriarcal, très colonial, parce qu'on vient contrôler finalement l'expression de genre et l'aspect corporel en fonction d'aspects typiquement masculins ou typiquement féminins, mais il faut très clairement le dire, ce sont des aspects typiquement blancs. Ce ne sont pas des aspects typiquement racisés. Et donc du coup, on le sait, par exemple, les femmes noires sont très souvent considérées comme des hommes parce qu'elles ne respectent pas les standards de la féminité occidentale blanche. Et donc du coup, toute cette question de passing, ça aussi, finalement, ses racines coloniales. Et c'est vraiment important de pouvoir prendre en considération que quand on est une personne trans, on ne doit pas avoir un passing. C'est-à-dire que si on n'a pas envie de faire d'opération, si on n'a pas envie de prendre d'hormones, si on a envie de s'habiller de manière androgyne, on peut et c'est OK. Après, bien évidemment, il y a des questions de sécurité qui rentrent en jeu. Mais on ne doit le passing à personne et on ne doit la déclinaison de notre identité à personne.
Donc on n'est pas obligé de transitionner, ça c'est extrêmement important à dire aussi, pour être une personne trans. On a tendance à aussi beaucoup essentialiser le fait trans comme étant un objectif de transition et un parcours qui serait... Du coup, je te pose la question à toi, Louis, est-ce qu'il y a autant de parcours de transition qu'il y a de personnes trans ?
Ben oui, comme les personnes cis. De toute façon, chaque personne cis est différente, soit physiquement, mentalement, son rapport avec son corps. Enfin, il y a tellement de pluralité de personnes. C'est de même pour les personnes trans. Donc, certaines personnes vont, comme l'a dit Morgane, uniquement prendre des hormones et ça leur suffira. Certains, pas d'hormones du tout, juste un coming out. Certains, des hormones et une opération ou toutes les opérations possibles. Ça dépend et ça varie vraiment d'une personne, mais le fait est que chaque personne trans, peu importe son parcours, est légitime, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il n'y a vraiment pas de parcours type et ça varie d'une personne à une autre. Les transidentités sont uniques, hein, chacun.
Après, le souci, c'est que c'est bien beau le discours qu'on tient ici, sauf que ce n'est pas le discours sociétal. C'est pas le discours sociétal, c'est pas le discours médiatique et c'est pas le discours médical. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un peu ce fantasme que les vraies personnes trans, ce seraient les personnes trans qui le sauraient depuis l'enfance, qui auraient toujours su, qui d'une manière très stéréotypique jouaient avec des jouets de l'autre genre, quoi que cela veuille dire, avaient un attrait pour telle couleur, tel vêtement, telle instance de sociabilité. Et
Parfois c'est le cas.
Ouais. Mais sauf que malheureusement, la médecine aujourd'hui calque son approbation de nos identités sur ce discours-là et sur ce narratif trans-universel. D'ailleurs, dans les commissions à l'hôpital, pour pouvoir approuver ou non un début de transition, il y a ce qu'on appelle un critère extrêmement dégueulasse qui s'appelle le critère de crédibilité esthétique. C'est-à-dire que les médecins vont un peu de manière très très approximative évaluer si oui ou non vous allez être crédible après transition hormonale chirurgicale dans le genre qui est le vôtre. Donc du coup, si les médecins partent du principe que vous ne serez pas crédible en tant qu'homme ou en tant que femme, ils peuvent vous refuser l'accès aux traitements hormonaux et chirurgicaux. Donc c'est pour ça que c'est très important qu'on sorte de ce narratif universel et qu'on puisse entendre des voix diverses, qu'on puisse voir des corps diverses, voir des corps de race, de religion, de classe sociale différentes, pour vraiment comprendre que les transidentités, c'est important d'en parler au pluriel et non plus au singulier.
On attend aussi souvent que les personnes trans soient tous en souffrance, tous et toutes en souffrance. Voilà, et c'est sûr qu'on a transitionné parce qu'on était au bout de notre vie et qu'on avait tous des pensées suicidaires et qu'on a déjà tous fait des tentatives de suicide et qu'on a déjà tous été au bout du rouleau. Il y a effectivement un fort taux de suicide dans la communauté trans. Moi, j'ai tendance à dire que le suicide n'est pas uniquement causé par la transidentité, il est causé à cause de la société. La transidentité est une difficulté, j'entends. C'est difficile de ne pas être en accord avec soi-même. Il y a une vraie forme de douleur là-dedans, hein, psychologique, voire même physique. La plus grosse douleur, c'est le rejet de la société, le rejet de la famille, la transphobie, les insultes, la peur. Tout ça crée la dépression, crée un mal-être psychologique, crée les tentatives de suicide. Nous ne sommes pas tous mal dans notre peau au point de vouloir absolument prendre des hormones, au point de vouloir absolument faire des opérations. Parfois, nous sommes dans des situations, moi je parle dans mon cas personnel, je suis quand même allé jusqu'à faire une phalloplastie, donc une opération de réassignation sexuelle, ou encore dit me refaire le zizi. Pour faire plus simple, les gens s'attendent à ce que je leur dise que j'étais au bout du rouleau quand j'ai voulu faire cette opération, que vraiment je ne pouvais plus voir mon sexe d'origine, que ça n'allait pas du tout. Bah pas du tout. Pour vous dire tout, j'allais bien avec mon sexe d'origine. J'avais une vie sexuelle active. Je n'arrivais pas de problème à me voir dans le miroir, mais je pouvais aller mieux. Donc pourquoi je ne pas aller vers ce mieux-là, en fait ? C'est-à-dire que oui, j'ai une vulve de naissance, oui, je suis bien avec, mais je sais qu'avec un pénis, je vais me sentir mieux. Donc pourquoi attendre d'être au bout du rouleau pour aller vers ce mieux-là ? C'est ce que j'essaie d'expliquer. Il n'y a pas besoin toujours d'être au bout du rouleau et vraiment pied au mur pour pouvoir juste accéder à ce qui nous semble mieux pour nous et ce qui nous permet d'accéder vraiment à un bien-être total.
En France, la transphobie, malheureusement, elle est en hausse aussi. Elle vise particulièrement des jeunes personnes trans. Et dans la moitié des cas, ce sont les parents qui sont violents. Les personnes trans, donc effectivement, il y a une prévalence des taux de suicide, ou en tout cas des taux de tentatives de suicide. C'est 7 fois plus important pour les personnes trans. On sait aussi que 80% des personnes trans aussi, en France, ont été victimes d'agressions verbales ou physiques. On sait que 56% d'entre elles plongent dans une forme de dépression après ces agressions-là, du coup, il y a la moitié des personnes trans aussi qui ne veulent pas aller chez le médecin après, ou chez le psy, parce qu'ils ont très très peur du parcours de soins et de ce qui peut advenir. Donc du coup, je me tourne vers toi, Morgane, puisque du coup, tu es thérapeute. Est-ce que tu peux nous parler un peu quand même de ces violences-là psychologiques qui sont vécues tout au long du parcours de transition potentiel, ou être une personne trans, se sentir trans aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme violence extérieure de l'ordre psychologique ?
C'est très compliqué, finalement. Moi, quand je donne des formations, très souvent, on est étonné de la violence auquel les personnes trans sont confrontées. Comme si, finalement, les petites choses du quotidien pour une personne cis pouvaient devenir effectivement très compliquées pour une personne trans. Et donc, du coup, on a des difficultés à se rendre compte un petit peu de ce que c'est que de vivre en tant que personne trans. Imaginez simplement vivre dans une société dans laquelle votre simple existence est considérée comme un scandale sanitaire, comme une épidémie, comme un phénomène de mode. Imaginez vivre dans une société dans laquelle votre existence dans l'espace public est considérée comme une menace à la civilisation. Imaginez devoir justifier de votre identité à chaque rendez-vous médical, à chaque démarche administrative. Imaginez subir des regards incessants, imaginez subir des agressions, du harcèlement verbal, sexuel, et imaginez devoir continuer à être docile, continuer à vous continuer finalement à accepter ce système qui vous oppresse, continuer à être la gentille petite personne trans qui ne dérange personne. Alors forcément, quand les personnes trans arrivent dans mon cabinet, parce que je reçois énormément de personnes trans, la première chose qu'elle me dit, c'est voilà, j'avais un psy, j'avais un thérapeute avant, et c'était très compliqué pour moi d'aborder les sujets de genre avec lui, les sujets de transition. Dans un premier temps, parfois parce que il y a eu énormément de violence, il y a eu énormément de préjugés, énormément d'idées reçues discriminantes qui m'ont été proposées, des raccourcis, ou parce que j'ai dû éduquer mon psy. Et on ne devrait jamais payer pour éduquer son professionnel de santé. Vraiment, à partir du moment où vous faites ça, parez-vous très vite. Donc, je pense que le gros souci, ce dont souffrent les personnes trans, au-delà finalement des agressions très très réelles et physiques, physiques en et hors ligne qu'elles vivent au quotidien, c'est le manque d'informations justes à leur propos, la diabolisation de leur identité qui ne fait qu'accroître finalement les idées reçues et donc la transphobie à leur égard. Et donc, il est primordial aujourd'hui de pouvoir laisser l'information sur tous ces sujets aux concernés, de faire de l'information par les trans, parce que là, aujourd'hui, c'est fait par les cis, pour les cis. Et du coup, forcément, bien évidemment, le discours, il est biaisé. Il est biaisé parce qu'il correspond au fantasme de ce que les personnes cisgenres pensent que sont les transidentités. Et c'est bien loin de tout ce que vous voyez dans les médias. Et donc, je pense qu'il y a une nécessité pour que ces violences s'arrêtent dans un premier temps d'éduquer, de laisser les personnes trans parler. Quand on est une personne cis, d'arrêter de se prétendre expert des transidentités, même si on a fait des études. Les autres violences, c'est les violences effectivement qui sont systémiques, au-delà des violences interpersonnelles, des violences dans les relations. Il y a aussi les violences du système, parce que quand on existe en tant que personne trans dans la société, il faut savoir que rien n'est prévu pour nous, rien n'est pensé pour nous. L'identité de genre a été vraiment conçue comme l'un des piliers, l'un des fondements de notre société et de notre identité. Et à partir du moment où nous, en tant que personnes trans, on vient mettre un coup de pied dans la fourmilière et on dit non, ça n'a pas à être comme ça, tout à coup, c'est tout le système qui risque de s'écrouler. Et quand le système risque de s'écrouler, que font les réactionnaires, que font les conservateurs? Eh bien, ils s'accrochent aux branches qui restent. Et comment ils font ça? C'est en étant extrêmement virulents à notre endroit et en faisant des personnes trans les responsables de tous les maux. C'est ce qu'on voit aujourd'hui en Russie, c'est ce qu'on voit notamment aussi aux États-Unis, où les personnes trans sont devenues les premières cibles, hein, et finalement le signe de ralliement des républicains. Et donc, du coup, on fait de nous une menace, on fait de nous finalement une sorte de monstre qui viendrait convertir les enfants, qui viendrait piquer l'identité des femmes. Et tout ça, finalement, à cause de la désinformation, à cause du manque de formation aussi des professionnels qui nous accompagnent. Et donc, c'est primordial aujourd'hui de pouvoir réfléchir ensemble, penser un narratif trans autrement que ce qu'il est aujourd'hui pour pouvoir aiser le quotidien des personnes trans en France.
Très bien dit, merci beaucoup. Alors, après, je voudrais quand même évoquer le fait que, évidemment, vous le savez très bien mieux que moi, qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont cis et qui ne s'intéressent pas forcément à la question, ils ne sont pas directement concernés, etc. Et moi, j'aime à penser que, en fait, personne ne naît avec un manuel sur la non-binarité ou la transidentité. Donc, il est possible que ces personnes-là fassent des erreurs qu'on dit humaines et que, du coup, elles puissent avoir une bonne intention, un bon effort. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à une personne qui... Vous sentez... Ça se sent, quand même, quand une personne, elle a envie de bien faire, mais elle se trompe. Comment vous réagirez-vous à une personne qui fait une gaffe, qui dit « Oh, merde, pardon, j'ai oublié, je sais plus comment on dit, etc. »
Alors, l'une des premières choses que je dis en formation, c'est que c'est OK de se tromper. C'est OK de se tromper parce que on vit tous, finalement, notre nature humaine, et que de la nature humaine, c'est de se tromper. De se tromper pour pouvoir mieux apprendre par la suite. Et donc, se tromper de pronom, se tromper de prénom, dire un mot à la place d'un autre, c'est jamais grave. Ça devient grave à partir du moment où c'est intentionnel, à partir du moment où c'est fait pour blesser et à partir du moment où c'est répété. Maintenant, comme tu le disais, aujourd'hui, c'est jamais grave de ne pas savoir, et c'est OK. Seulement, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'on est quand même en France, en 2023, et que si on veut s'informer sur les transidentités, on a tout le matériel à disposition. Et donc, du coup, aujourd'hui, la transphobie, c'est surtout de l'ignorance délibérée. C'est pas « oh là là, je comprends pas, aide-moi à comprendre », c'est « je n'ai pas envie de comprendre et je ne ferai pas l'effort de comprendre ». À partir du moment où, en effet, il n'y a pas de volonté de faire mieux, il n'y a pas de volonté d'aller au contact des personnes trans pour en apprendre davantage, ou même ne serait-ce que lire les nombreux comptes Instagram qui existent, regarder les docus, les podcasts, lire les livres qui existent pour s'informer sur ces sujets, aujourd'hui, si quelqu'un dit qu'il ne comprend pas, au bout d'un certain temps, c'est que quand même il ne veut pas comprendre et il ne veut pas faire d'efforts.
Parce que dans Jeans, j'appelle l'ignorance choisie. C'est qu'il y a un moment où, en fait, comme tu le dis très bien, bombardé de toutes ces questions de trans à la télé, sur M6, oh mon Dieu, on ne parle que de ça, etc. Dans ce cas, informe-toi. Alors, je voudrais aussi parler de la question de la transidentité, mais croisée, intersectionnelle, du coup, avec la question de la race, donc être une personne transgenre et racisée, c'est aussi du coup s'exposer à une oppression, à l'intersection entre le racisme et la transphobie. Parfois c'est dans les endroits où on s'y attend le moins. Est-ce que vous auriez subi potentiellement du racisme au sein des communautés LGBTQIA+, et est-ce que vous auriez subi la transphobie au sein de la communauté LGBTQIA+?
Le racisme de la communauté LGBTQIA+, si les gens ici partent du principe que le fétichisme est du racisme, oui. Car son nom, c'est du racisme. Hein. C'est du racisme. Voilà, c'est comme la transphobie compliment que je vous ai dit avant, c'est pareil. Hein, c'est du racisme compliment. Hein, parce qu'au final, les gens ont envie de coucher avec vous, mais ce n'est pas pour les bonnes raisons.
C'est les gens qui adorent les trans.
Oui, ou adorent les rebeux.
Ah oui, donc, oui, c'est ça.
Là, du coup, c'est le combo gagnant. Mais du coup, oui. Si on part du principe que le fétichisme en est, parce que ben, je suis. Arabe, ça se voit que je suis racisé, ça dépend comment vous le voyez, vous pouvez penser que je suis arabe, certains me disent que j'ai l'air antillais alors que je ne suis pas du tout antillais, mais vous le voyez comme vous voulez le voir, mais en tout cas ça se voit, et du coup bah, automatiquement c'est vrai qu'il y a du fétichisme qui se crée. Si je dis que je suis trans, alors là c'est casino vraiment, mais la transphobie dans la communauté LGBT, elle est très présente, surtout maintenant, je vais vraiment tirer à balles réelles, surtout dans la communauté gay. Ah. Voilà. La communauté gay met beaucoup le pénis dans une sorte de cristallisation, si je peux dire ça comme ça. Du coup, il y a une image du pénis qui est super important, le rapport pénétratif, la performance, le membre, le partenaire bien membré, etc. Alors, quand vous êtes un mec trans gay, parce que voilà, le genre n'a absolument rien à voir avec l'appartenance sexuelle, l'attirance sexuelle. Quand vous êtes un homme trans gay dans des soirées homosexuelles, majoritairement cis, 99% cis, et que vous entendez à longueur de soirée « Ah, la chatte, ça me dégoûte », vous faites quoi quand vous êtes en plein milieu de tout ça et que vous êtes là pour, comme n'importe qui d'autre, chercher possiblement un partenaire, un coup d'une nuit, un coup d'une vie, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez. Et que vous entendez que, possiblement, ce que vous avez entre les jambes est en train de dégoûter la quasi-totalité de la salle. Bah, vous avez envie de vous tirer.
Est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi du fait que tu sois une personne racisée, qu'on s'attende de toi en tant qu'homme, que tu es encore plus un gros membre?
Peut-être bien. Ce que je partage là, c'est... Enfin, j'ai déjà été je suis majoritairement... Je ne suis pas homosexuel, mais je suis majoritairement dans des endroits homosexuels, et j'avoue que c'est une phrase que j'entends souvent.
Ouais.
Je l'entends tout le temps. J'ai de la chance de ne pas être uniquement attiré par les hommes, parce que ce serait horrible d'être... je le dis, hein, ce serait très difficile d'être un homme gay, trans, parce que relationner, ça serait super difficile, parce que j'aurais super peur de tomber sur quelqu'un qui va être transphobe, tout simplement. Mmh. Et même sur les réseaux, hein, j'ai déjà vu plusieurs lesbiennes qui sont très transphobes envers les femmes trans, disant que ce sont des hommes, etc., et qu'elles ont tout à fait le droit de ne pas vouloir relationner avec. Alors, pause, personne ne vous force à relationner avec des personnes trans. Hein. On n'est pas en mode à toquer à vos portes, en mode témoin de Jéhovah, couchez avec nous, je veux du sexe, voilà. Pas du tout. Mais je trouve quand même que c'est important d'avoir une certaine déconstruction au niveau de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Moi, je pars du principe, voilà, si on est gay, on aime les hommes. Vous aimez l'apparence masculine, vous aimez les hommes, on est d'accord. Ce que vous aimez, je sais pas, c'est les barbus, les non-barbus, les imberbes, les twinks. Je ne juge pas, chacun son sa cam. Mais vous aimez les hommes. Vous aimez pas les pénis. Vous êtes amoureux des pénis ou vous êtes amoureux des hommes? Vous êtes amoureux des hommes. Parce que si vous aimez les pénis, vous aimez aussi les femmes trans, possiblement. Non? Bon, vous aimez pas les femmes, vous aimez les hommes. Donc si vous aimez les hommes, peu importe ce que vous aimez, que ce soit la pénétration ou être pénétré, il y a toujours moyen de trouver plaisir. On est en 2023, les sextoys ça existe, il y a des ceintures, il y a plein de trucs. Il y a même des god licornes, tout existe. Donc ne me dites pas qu'on ne peut pas trouver le plaisir de tout à chacun, ça existe. Maintenant c'est une question aussi de déconstruction, tout ne repose pas sur le sexe de la personne. Et tout est découverte en fait, le sexe est découverte. Même une personne cis, vous attendez à voir un pénis, vous allez sûrement voir un pénis, mais ça reste la découverte. Vous ne connaissez pas le corps de l'autre, vous ne savez pas ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, comment il aime les choses, tout est découverte.
Il y a aussi quelque chose qui obsède vraiment tout l'échiquier politique, de la gauche à la droite, où que vous alliez. C'est la question qui s'est retrouvée en couverture de magazines récemment beaucoup, c'est les hommes enceintes. Aujourd'hui en France, il faut savoir que la PMA, on a célébré en janvier 2022 que c'était ouvert aux femmes lesbiennes, aux femmes célibataires, mais c'est encore défendu pour les personnes trans. Des gens dans le public ou dans les auditories qui nous écoutent ont pu voir notamment les documentaires d'Océan, qui a beaucoup travaillé, qui est un homme trans aussi, qui a aussi travaillé sur ces questions de la paternité, en fait ce qu'on appelle la transcernité, c'est-à-dire une transparentalité. Pourquoi ça nous fait tellement débloquer de voir des hommes enceints et de s'imaginer, même quand ils ne sont pas enceints, juste qu'ils soient dans un couple parental, qu'ils veulent des enfants aussi?
Bah, enceint, je pense que c'est le visuel qui choque les gens, parce que les gens n'ont peut-être pas l'habitude aussi déjà de base. Si je laisse le bénéfice du doute, les gens n'ont peut-être pas l'habitude de voir un homme enceint. Après, c'est vrai que c'est une minorité. Hein. Voilà, c'est pas la majorité. Techniquement, on va dire que depuis Secret Story, vous devriez avoir l'habitude. Voilà. Thomas vous a montré le chemin, le premier homme trans enceint, quand même. Mais en fait, ce que je voulais dire surtout, c'est que je ne vois pas en fait pourquoi la question de la parentalité chez les hommes trans choque. Parce qu'en fait, de base, on a un utérus. Pourquoi on s'en servirait pas? Tout simplement. La facilité, elle est là. On peut porter un enfant. Je ne vois pas pourquoi on ne s'en servirait pas et pourquoi on rentrerait dans tout un parcours compliqué alors qu'on se sent capable possiblement d'en porter un. Il faut aussi comprendre que ce n'est pas parce qu'on transitionne qu'on laisse tout derrière nous. Des fois, il y a des envies de porter un enfant qui restent même après transition. C'est des envies de porter la vie qui ne sont pas en contradiction avec le fait de transitionner, de vouloir porter soi-même son enfant, que son enfant est nos gènes, parce que les hommes trans, je le rappelle, ne peuvent pas donner leurs gènes par spermatozoïde, etc. Peu importe l'opération qu'on subit, on ne pourra jamais avoir de spermatozoïde. Donc ces gènes-là, nos ovocytes et porter nos enfants, sont la seule façon pour nous de donner nos gènes à notre enfant. Donc s'il y a une volonté depuis toujours d'apporter un enfant et pas de problème avec ça, parfois la transition n'est pas un annulatif en fait de cette envie-là, et elle subsiste, et c'est pour ça aussi qu'elle existe, je pense.
Il faut savoir que jusqu'en 2016, on était obligé de se faire stériliser pour avoir nos papiers. On était obligé de se faire stériliser pour justement éviter ce type de situation abominable que sont les hommes enceints. Et donc, du coup, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence, c'est pour pouvoir être reconnu comme un homme dans la société, il va falloir que tu passes par une intervention chirurgicale qui va te stériliser à vie. Au-delà de cette violence-là, on comprend très bien qu'il y a une vraie volonté de gatekeeping de qui peut être enceint et qui peut ne pas l'être. C'est également la même chose quand on parle des règles. Pareil, ça choque toujours quand on dit qu'il n'y a pas que les femmes qui ont leurs règles, mais également les hommes trans et les personnes non-binaires. Parce que à partir du moment où on parle des personnes trans, tout le monde, peu importe son niveau d'études, devient doctorant en biologie. Et ça, c'est un très gros souci, parce qu'il y a peu de doctorants en biologie.
Voilà. J'ai fait SVT en lycée, ouais. Je sais que c'est chromosome XX et XY, en fait. Voilà.
Sauf que, en effet, les cours de SVT de 4e ne suffisent pas pour comprendre la biologie et ne suffisent pas pour se dire expert, et que, en effet, au-delà du XX, du XY, il y a tellement tout un éventail d'identités et d'identités sexuées aussi. Mais donc, du coup, à partir du moment où on dit qu'on est trans, tout à coup, on a forcément Jean-Michel, expert en biologie, qui vient nous expliquer que c'est une abomination de transformer nos corps, que c'est une abomination de laisser avoir finalement quelque chose qui serait de l'ordre il y a quelques années du freak show. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y avait des femmes à barbe qui étaient dans les freak shows. Là, je pense que si on était dans les années 1700-1800, des hommes enceints pourraient être dans des freak shows aussi. Et que c'est cette figure de la monstruosité, de l'anormal, de l'hors norme, du marginal, qui vient un peu bouleverser, encore une fois, mais c'est aussi important de le regarder d'un point de vue systémique. C'est-à-dire que ça vient bouleverser l'ordre hétérosexuel. L'ordre hétérosexuel qui régit l'intégralité de notre système. À partir du moment où il y a une image qui vient choquer à ce point-là, on l'a vu notamment lors de l'affaire du planning familial, hein, où le dessinateur qui avait dessiné cette affiche avec un homme enceint s'était pris un harcèlement incroyable, ça vient choquer, ça vient montrer des réalités qui sont caché depuis la nuit des temps, parce que les hommes enceints, ça existe depuis la nuit des temps. Et comme le disait très justement Louis, pour être enceint, bah, il faut un utérus. Voilà, il faut être en capacité de porter un enfant. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est tout ce qui est nécessaire. Et donc, du coup, si on est tant attaché à la biologie que ça, on devrait le savoir.
Oui.
Je pense que c'est important quand on parle de PMA pour les personnes trans, on parle aussi de PMA pour les femmes cis. Et il est important d'arrêter de décorréler ces deux luttes-là. Les luttes féministes sont des luttes trans et les luttes trans sont des luttes féministes. Ce qu'il y a derrière cette interdiction de la PMA pour les personnes trans, c'est encore une fois une volonté de contrôle des corps. Oui. Et on l'a très bien vu aux États-Unis, ça a commencé par taper sur les personnes trans pour arriver à la déconstitutionnalité. C'est compliqué à dire comme mot,
ouais.
Voilà, de l'avortement. Donc, à partir du moment où on commence à s'attaquer aux droits trans, sachez qu'on arrive pour les droits cis juste après. Et qu'il est du coup impératif de se dire, je ne me bats pas pour les droits trans, mais je me bats pour nos droits. Parce que l'ennemi, il est toujours commun.
Oui, vous pouvez applaudir. Alors, je voudrais quand même parler un peu, parce que c'est aussi le sujet de jeans, de spiritualité, de religion, du fait d'être racisé, mais aussi de pouvoir avoir, je ne sais pas, ce grand autre qui nous regarde de là-haut ou d'ailleurs, peu importe. Mais toi, Louis, tu es musulman. Et toi, Morgane, tu es né de mère juive, si je ne me trompe pas. Donc ça fait de toi, a priori, dans le judaïsme, un mec juif. Dans le judaïsme aussi, c'est-à-dire dans la littérature juive rabbinique, la Mishnah, il existe des personnes qui sont appelés Tum Tum, qui auraient le sexe dit caché. Il y a même, donc dans en fait, la tradition kabbalistique, ce qu'on appelle le Zohar, chez les personnes juives, un cas d'une femme qui a une âme d'homme. Et ça, dans la Kabbale à l'époque, ça présente clairement le cas de la transidentité comme existante. Donc même quand on va plus loin que l'islam, plus loin que la chrétienté, chez les juifs, et même avant ça, avant les monothéistes, ça existait. La question que je voulais vous poser à vous deux, c'est quelle place la spiritualité en général. Voilà, est-ce que ça a eu une place, est-ce que ça a eu un impact pour vous dans votre parcours de transition, dans votre parcours de compréhension de qui vous étiez, et est-ce que vous aviez envie de faire aussi communauté au sein de cette spiritualité, de vos connaître dans ça?
Pour moi, la spiritualité avant, c'était même pas envisageable, enfin, comme je l'entends maintenant, parce que de base, quand on n'est pas pratiquant, on a tendance à partir directement du principe que les religions ne sont pas faites pour les personnes LGBT. Donc du coup, c'était même pas une question. Moi qui ai grandi dans une famille musulmane, j'ai jamais subi la transphobie de ma mère, j'ai subi la transphobie de ma famille, la plupart ne sont pas musulmans pratiquants, hein, mais la culture subsiste même quand on ne pratique pas de toute façon. J'ai subi beaucoup de transphobie et je partais du principe, et je l'ai pour l'avoir vu, que la communauté musulmane quand même avait de bons bagages LGBTophobes. Du coup, j'étais en mode, ça sert à rien de me diriger vers une communauté qui va, pour coup sûr, me taper sur les doigts si je révèle qui je suis, va me juger, va m'insulter, voire pire. Et ouais, j'avais même pas pensé, donc ma transition se faisait tout en connaissance de cause et en me disant que oui, je croyais à un possible Dieu, j'essayais d'avoir des bonnes actions et de me dire que j'en serais possiblement ici-bas ou plus tard récompensé, mais sans vraiment mettre un nom dessus. Et en fait, c'est cette année où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la religion musulmane, et en fait j'ai fait l'erreur d'en parler sur Twitter, et je me suis pris une vague de transphobie de personnes musulmanes, hein, voilà, qui me disaient que déjà il y avait une moitié qui me disait que j'allais mourir, que je devais mourir, que je devais me suicider, etc., machin chouette, et l'autre moitié c'était c'est bien, mais maintenant il faut détransitionner, par contre, voilà, si tu veux être à fond dedans, si tu veux être bien, si tu veux avoir une place au paradis, faut que tu comprennes que ta transidentité c'est une épreuve et qu'il faut résister et détransitionner. Mais je pense que c'est pareil chez les chrétiens. Les chrétiens partent du principe que être LGBT, c'est une épreuve, qu'il faut prier, je sais pas trop quoi, là, en mode c'est un rhume, quoi. Et puis, quelques semaines avant le ramadan, en fait, j'ai connu une personne trans, un homme trans, qui est un ami à moi, que je savais musulman, mais je me suis jamais intéressé à cette partie-là de sa personne, j'avoue. Et comme le ramadan allait approcher, il allait pas mal à la mosquée. Un jour, par curiosité, j'ai dit, je peux venir avec toi, voir comment c'est. Moi, j'étais en mode, vraiment en mode visiter la mosquée de Paris. Hein. J'étais pas du tout en mode, je vais prier, quoi. Hein. J'étais en mode, je vais regarder la mosaïque et tout. Hein. Et au final, j'arrive et tout de suite, j'étais très à l'aise. C'est vrai que si vous êtes jamais rentré dans une mosquée, c'est vraiment les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. On prie pas du tout ensemble. Parce que je crois que chez les chrétiens, c'est tous sur les mêmes bancs. Et du coup, c'est vrai que j'étais super à l'aise je ne savais pas du tout comment ça se passait. Donc j'avoue, j'ai imité. Et je me suis dit, ça me plaît en fait. Ça me plaît vraiment beaucoup. Je vais revenir avec toi, du coup. Et je suis revenue. Et je me suis intéressée après au Coran. J'ai commencé à vraiment le lire. Et ouais, je me suis dit, j'ai envie de faire le ramadan pour la première fois de ma vie. J'avais déjà vu mes grands-parents le faire, etc. Hein, donc, j'étais pas en mode inconnu, mais j'avais envie de le faire pour la première fois. Et en fait, du coup, j'avais pas envie de le faire. Je sentais que j'avais envie de le faire en tant que musulman. Du coup, je me suis converti, je crois, 2-3 jours avant le ramadan. Et du coup, j'ai fait mon premier ramadan en tant que musulman. Et c'était juste superbe, vraiment. Et j'allais tous les soirs à la mosquée pour le ramadan. Et c'était vraiment cool. Je suis fier d'être trans et musulman et je pars pas du tout du principe que ma transidentité est une épreuve. Ce que je vais dire, ça va peut-être grave énerver certains, mais en fait c'est la transphobie que je prends comme une épreuve, moi, perso. Oui. C'est la méchanceté des autres que je prends comme une épreuve et le fait d'essayer de me faire penser que je suis une erreur ou que ma transidentité est une erreur, je pars du principe que c'est ça mon épreuve sur Terre, c'est de supporter tout ça et de rester honnête avec moi-même. Et c'est comme ça que je me sens bien comme ça. Dieu ne fait pas d'erreur, je ne considère pas que je suis une erreur, je sais que je me sens garçon, je suis garçon, c'est une certitude. Donc si c'est une certitude, ça vient de Dieu, si ça vient de Dieu, ce n'est pas une erreur.
Amen.
Donc voilà.
Amen. À toi, Morgane, juste pour finir sur ces questions, la spiritualité, est-ce que ça t'a apporté quelque chose?
Alors, avant ma transition, je me considérais comme juif. Effectivement, j'ai été élevé dans une famille juive, de mère juive. Le judaïsme, la religion en tout cas, se passe par la mère. Il y avait beaucoup de traditions dans ma famille. J'ai même fait ma bat mitzvah à l'époque, que j'appelle bar mitzvah maintenant. C'est l'équivalent de la communion chez les juifs. Et je l'ai fait à 13 ans. 13 ans, normalement, c'est l'âge, effectivement, où les hommes le font. Je ne l'ai pas fait à 12 ans, alors que normalement, j'aurais dû le faire à cet âge-là. Peut-être que ça aurait pu être un petit signe de quelque chose, mais je n'ai pas compris. Quoi qu'il en soit, le judaïsme, ça a été quelque chose de très, très important pour moi. Venant de mes grands-parents aussi, c'était quelque chose qu'on m'a légué comme un cadeau, parce que beaucoup de ma famille a été dans les camps. Et donc forcément, c'était aussi un symbole de fierté de se réapproprier ce pourquoi on nous avait tués. Et du coup, est arrivée ma transition, et pour moi c'était important de pouvoir changer mon certificat de communion, on va dire ça comme ça, donc de changer mon certificat de bat mitzvah en certificat de bar mitzvah pour être reconnu comme un homme dans la religion. C'était important pour moi que, voilà, c'était une chose que la société me reconnaisse, c'en était une autre que la religion le fasse aussi. Et donc je suis arrivé devant mon rabbin, et le rabbin m'a demandé, pour pouvoir se faire des tests médicaux. Des tests médicaux, des bilans sanguins, des courriers psychiatriques, et je pars du principe, comme l'a très bien dit Louis, que Dieu n'a pas besoin de voir des examens sanguins pour accepter ses enfants. Et donc j'ai refusé absolument de me soumettre à ces demandes, et à partir de ce moment-là, c'est vrai que ça m'a fait m'éloigner de la religion, parce que j'ai pas trouvé un accueil, j'ai trouvé des demandes de justification sur qui j'étais, qui n'avaient pas lieu d'être. Bon, j'ai fait le Talmud, j'ai fait donc l'éducation religieuse, on m'a enseigné des dogmes et une manière de se comporter à l'époque en tant que femme qui était très très binaire, très très hétérosexuelle et très très soumise. Et déjà là, ça m'avait mis un petit peu la puce à l'oreille. En tout cas, c'était pas OK pour moi. Et donc, il y a eu un premier éloignement à ce moment-là. Et vraiment, l'éloignement définitif s'est fait à partir de cette rencontre avec ce rabbin qui a pas su m'accueillir comme il aurait dû m'accueillir. Néanmoins, voilà, j'ai continué à avoir une spiritualité. J'ai continué à croire en une présence, alors que je nomme pas, mais qui est là, qui veille sur moi. Et puis surtout, j'ai compris que c'est moi, c'est ma force qui m'a permis de faire ça. Et donc du coup, je me suis dit qu'effectivement j'avais des personnes qui veillaient sur moi, mais la force pour pouvoir subir et faire l'expérience de ce parcours, elle venait de moi et de ma communauté et de mes ancêtres trans.
Amen. Voilà. Alors on va conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Alors j'ai notamment une amie enceinte qui m'a dit récemment, je cite, « Moi, ma fille, je l'aimerais quoi qu'il arrive, même si elle me dit à 8 ans qu'elle est trans, qu'elle veut devenir un garçon. Mais en revanche, si elle veut, je lui dirai d'attendre jusqu'à 18 ans. Jamal, tu vas quand même pas me dire qu'à 8 ans, elle sait déjà. Qu'est-ce que vous lui auriez répondu à ma place ?»
Elle sait clairement. Comme tu as dit avant, il n'y a pas de parcours type. On attend à ce que les personnes trans toutes sachent qu'elles sont trans depuis qu'elles sont enfants. Ce n'est pas le cas. Certains, si. Voilà, moi, j'avais 4 ans. Je mettais déjà des mots dessus. Encore fallait-il vouloir les entendre, ces mots. Ma mère s'en veut encore aujourd'hui. Pourtant, on est très fusionnelle, elle et moi. Je ne lui en veux pas du tout. Mais elle s'en veut encore aujourd'hui de ne pas avoir eu une oreille assez attentive pour entendre que moi qui pleure parce qu'on m'habille en rose, moi qui pleure parce qu'elle me met des jupes, qui pleure parce qu'elle me met des collants, qui lui demande quand est-ce que mon pénis va pousser pendant les 4, 5, 6 premières années de ma vie, ça ne veut pas dire que je suis juste en questionnement et, sur les corps et que je suis juste en train de grandir. Non, c'est un appel de détresse en fait. Un enfant trans qui dit à 8 ans qu'il se sent là, dans ce cas-là, garçon, ça ne veut pas dire que l'enfant va faire une mamèque à 8 ans. Hein, faut se calmer. Hein, qu'il va pas, l'enfant ne va pas se piquer. Hein, faut pas voir un loup alors que c'est un petit agneau, quoi. L'enfant va peut-être juste avoir besoin que vous le genriez au masculin, possiblement lui proposer de choisir un nouveau prénom, possiblement de l'aider à en parler autour de lui pour que la famille ou les amis le genre au masculin. C'est une transition déjà qui se fait de façon sociale, qui est là pour aider l'enfant, peut-être l'aider à choisir des nouveaux vêtements qui lui permettront d'être plus à l'aise. Vous l'avez peut-être forcé jusqu'ici à mettre des t-shirts Polly Pocket. Là, il serait peut-être temps de switcher sur des trucs qui lui plaisent, qui sont peut-être moins genrés ou genrés à ses goûts. C'est ça d'abord, transitionner. C'est pas que des médocs, c'est pas que des opérations, c'est aussi de manière sociétale. Et ça fait déjà beaucoup de bien à un enfant de pouvoir s'exprimer à travers toutes ces espaces-là comme il l'entend. Donc c'est ça d'abord. Et donc j'aimerais qu'on essaye de dédramatiser les transitions au niveau de, enfin, en bas âge, au niveau des enfants, parce que les enfants trans existent et il faut leur laisser la place d'exister aussi. Et c'est en les accompagnant au mieux, en arrêtant de dramatiser. Souvent on entend les enfants trans sont mutilés, les opérations sur les enfants à cause des personnes trans. Aucun enfant ne se fait opérer en France, hein, je tiens à préciser.
Par contre, opérations. Les enfants intersexes.
Oui, voilà. Non, là, je parle des enfants. Non, on rentre pas. Citons pas les sujets qui fâchent tout de suite.
Je reçois beaucoup de parents d'enfants trans qui viennent et qui sont totalement déboussolés. Et la première chose que je leur dis, c'est OK. C'est normal d'être déboussolé, c'est normal de ne pas comprendre. C'est normal parce que pendant X années, vous avez élevé un enfant où vous avez pensé de tel ou tel genre. Et là, tout à coup, cet enfant-là vous annonce que ce n'est pas le cas. Il faut d'abord comprendre que ce n'est pas une trahison et que l'enfant qui l'annonce ne se l'est pas dit la veille. L'enfant a très certainement fait un coming in, donc c'est-à-dire l'action de se penser, se réfléchir avec soi, pour soi, a très certainement réfléchi à son identité avant de vous en parler, a très certainement voulu avoir tous les éléments avant de vous les exposer. Et donc du coup, prenez ce coming out comme une marque de confiance infinie envers vous, voire même comme un cadeau qui vous fait. Parce que si votre enfant est en capacité de pouvoir se confier à vous, ça veut dire que vous avez fait en sorte que l'environnement familial soit suffisamment ouvert pour que lorsque des questions comme celle-ci apparaissent, puisse y avoir du répondant et des réponses, et un accueil surtout inconditionnel. Ce que je dis à ses parents, c'est vous n'avez pas de deuil à faire. Vous n'avez pas de deuil à faire de votre enfant, parce que votre enfant, il est toujours là. Et ça peut être quelque chose d'extrêmement violent pour un enfant d'entendre, quand on est dans une sorte de processus de renaissance, que finalement, notre parent, notre famille est en deuil alors qu'on est toujours là. D'autant plus qu'il y a tellement d'enfants trans qui tentent de suicider ou qui y parviennent. Donc c'est important vraiment de replacer cette notion de deuil. Vous ne faites pas le deuil de votre enfant, vous faites le deuil de vos attentes. De vos attentes, de vos désirs et de ce que vous aviez imaginé pour lui depuis finalement la première échographie qui vous annonçait le sexe. Et au-delà de ça, beaucoup de parents me disent « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Qu'est-ce que j'ai loupé ?» La première chose que je leur dis, c'est les transidentités, c'est un état de fait, c'est pas un état de cause. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous l'avez désiré garçon ou fille que tout à coup on est une personne trans. C'est juste, on est une personne trans. Et du coup, vous n'avez rien à réparer parce que vous n'avez rien cassé. Et à partir de ce moment-là, la seule chose que vous avez à faire, c'est dans un premier temps prendre soin de vous, pour pouvoir être à même de prendre soin de votre enfant, prendre soin de votre chamboulement, du bouleversement systémique, familial qu'il est en train de se poser, pour être à même d'accueillir votre enfant. Et c'est tous les enfants queer sont des cadeaux pour les familles. Parce que les enfants queer vont permettre quoi ? Vont permettre de se questionner soi-même sur son rapport au genre et son rapport à la sexualité. Et du coup, c'est aussi ça que j'essaye de transmettre aux parents. Je peux comprendre que vous, à votre époque, ou que vous, selon votre environnement familial, géographique, on vous est bridé par rapport à votre expression de genre, par rapport à votre créativité, et que vous n'avez pas pu rester un enfant longtemps, et qu'on vous a imposé telle ou telle case très rapidement. Et donc, comme on l'a fait avec vous, vous avez tendance, plus ou moins consciemment, à le répéter avec vos enfants. Mais ce qu'il est important, c'est surtout en tant que parents de ne pas être les premiers harceleurs, de ne pas être les premiers abuseurs de vos enfants. Vos enfants vont s'en prendre suffisamment plein la gueule pour que justement vous puissiez être à même, vous, de leur offrir un cocon, une bulle de sérénité dans laquelle, non, ils ne vont pas se faire opérer à 8 ans, ils vont simplement réfléchir à leur identité, à eux-mêmes, et vous allez être les témoins privilégiés de cette évolution, de cette éclosion, et prenez ça vraiment comme un bijou, parce que c'est vraiment ce que c'est.
Preach, bravo.
Attends. C'est une vraie amie à toi.
Quoi?
C'est une vraie amie à toi. Si elle attend les 18 ans de son enfant, il y a une forte possibilité que son enfant ne soit plus là aux 18 ans. C'est surtout ça qu'il faut se dire.
Je lui dirai directement, le message est clair.
Il faut le dire clairement.
Oui, oui. Alors, merci mille fois à tous les deux d'avoir répondu à mes questions. Vous pouvez les applaudir encore. Merci de nous avoir écoutés dans le public, parmi les auditoristes. Merci au Point Éphémère de nous avoir accueillis. Bravo au Festival de Djurkov. Que vous soyez sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts, tout est gratuit, tout est là, disponible. Laissez vos questions, vos commentaires, partagez autour de vous, abonnez-vous bien sûr. Gilles Thierry Dubas Podcast sur Instagram. Merci, bonne soirée.